France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Vendredi 5 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 12 candidats pour un débat difficile à moins de 2 mois des élections européennes. Les têtes de liste ont tenté hier soir sur France Inter et France 2 d'échanger sur l'immigration, les impôts, l'écologie. On voit ça avec vous Agnès après les autres titres.
Les jeunes ont baissé la garde face au sida. Constat alarmant pour les 25 ans du SIDAction. Une campagne délétère en Israël à 4 jours des élections législatives, une dictée bienveillante, oui, c'est possible. Et enfin, les téléspectateurs américains retiennent leur souffle avant l'ouverture en direct d'un sarcophage vieux de 3000 ans.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, vous le disiez Agnès, à l'occasion de la 25e édition du SIDAction qui démarre donc aujourd'hui, la vice-présidente Lynn Renault, le parrain de l'édition 2019, Jean-Paul Gaultier, seront tout à l'heure au micro d'Ali Badou. Et puis à 8h20, à quelques jours des élections législatives en Israël, le correspondant du quotidien israélien Haaretz à Paris sera notre invité. Il publie aussi son premier roman, un roman d'espionnage chez Liana Levy. Dov Alphon dans le grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter. Plus de 3 heures de débat, parfois cacophonique, entre 12 candidats bien déterminés à sortir du lot pour marquer les esprits. Le premier grand débat des européennes a donné lieu à quelques passes d'armes sur l'immigration, les lobbies ou encore l'écologie. Et cet exercice très contraint, avec un temps de parole très limité, n'a pas réussi à tout le monde, Élodie Forêt. Attaquée de toutes parts.
Quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière, je vous le dis, vous devriez regarder vos pompes.
La candidate de La République En Marche, Nathalie Loiseau, peine à s'imposer.
Monsieur Valdella, vous êtes très grand, vous avez une grosse voix, on l'a tous compris, mais laissez-moi parler.
À ses côtés, donc, Jordan Bardella, jeune candidat RN, affiche un sourire serein, plus transparent, la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, très mal à l'aise lorsqu'on évoque l'hypothèse d'une adhésion de la Serbie à l'UE. Lui est contre, mais d'autres dans son parti auraient voté pour, comme n'a pas manqué de lui rappeler Nicolas Dupont-Aignan.
Si vraiment vous avez un problème avec les membres de votre liste, moi je vous accueille sur la liste de Debout la France. Je serais très heureux.
Il y aura au moins quelqu'un.
À gauche, une bonne prestation du communiste Yann Brossa, très percutant. Mais on retiendra surtout ce constat d'échec général dressé en conclusion par Raphaël Glucksmann.
Si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble? Notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls. Et en fait, on s'en mordra les doigts, l'histoire nous jugera.
Échec de la gauche, échec de l'Europe aussi, ironise François Asselineau.
Ce que je trouve fascinant, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas.
Oui.
Le fondateur de l'UPR, qui sera le seul à se présenter en 2022 à la présidentielle, tous les autres se sont engagés, s'ils sont élus, à assumer leur mandat jusqu'au bout. Et la date de ces élections européennes, le 26 mai. Ce grand débat-là est terminé. Emmanuel Macron a achevé hier soir son tour de France en Corse. Une visite boudée par les nationalistes qui n'ont pas apprécié ensuite la déclaration du chef de l'État sur le manque de regret de certains élus concernant l'assassinat du préfet Erignac. Après donc une centaine d'heures de débat en 16 rencontres, l'heure est au bilan. La synthèse aura lieu lundi au Grand Palais avec Édouard Philippe à la manœuvre et en présence de 400 personnes. Et pendant qu'Emmanuel Macron était en Corse, le Conseil constitutionnel a censuré la loi anti-casseurs en retoquant l'article phare concernant l'interdiction administrative de manifester.
Il est 7h04, Agnès, avec ce constat toujours aussi inquiétant pour le 25e SIDAction.
Le SIDAction qui a lieu effectivement aujourd'hui. Et les jeunes oublient que le VIH existe, ils prennent de plus en plus de risques. 23% des 15-24 ans interrogés lors d'une nouvelle étude menée à l'occasion de ce SIDAction, 23% donc s'estiment mal informés. Et un jeune sur 5 pense qu'il existe un médicament pour guérir du sida. Cette ignorance a pour conséquence 6000 nouvelles contaminations chaque année en France, un chiffre qui ne baisse pas. Et c'est ce qui est arrivé à Loïc que Véronique Julia a rencontré. Loïc venait de s'installer à Londres quand il a appris sa séropositivité. Il avait 26 ans à l'époque. Quelques semaines plus tôt, il avait eu des rapports non protégés. À l'époque, le VIH était une maladie lointaine pour lui. Il ne se sentait pas concerné.
En fait, je connaissais pas. Je savais qu'il fallait se protéger. Après, ça me semblait pas présent autour de moi, presque pas réel. Donc, pour moi, c'était finalement, oui, j'ai pris un risque, je me suis pas protégé, mais enfin, avant que ça arrive à moi, c'était vraiment une maladie des années 90.
C'est un SMS anonyme qui a conseillé à Loïc de se faire dépister. En Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, l'application Let Them Know permet d'informer sans dire son nom à un ancien partenaire qu'il a pris un risque et qu'il est en danger. Quand Loïc apprend la nouvelle, la terre se dérobe sous ses pieds.
C'est l'effondrement du monde. J'avais l'impression de commencer une nouvelle vie à Londres, tout était excitant, on mettait un stop. C'est une condamnation à mort. J'ai vraiment tout de suite pensé que j'allais mourir dans les prochaines années.
Finalement, les médecins rassurent Loïc, il vivra normalement, s'il se surveille, tout ira bien, sa charge virale sera indétectable. Après quelques semaines de déni, il a fini par prendre ses habitudes, un traitement à vie, mais sans effet secondaire pour l'instant.
Donc c'est 3 pilules par jour en une seule prise le matin, avec un suivi chez le médecin tous les 6 mois.
Aujourd'hui, Loïc est en couple avec un séronégatif. Il ne cache pas sa maladie, son employeur est au courant, ses parents aussi. Mais il a mis plus de 4 ans à leur avouer. Et rendez-vous à 8h10 sur Inter avec Lynn Renaud et Jean-Paul Gauthier pour ceci d'action. La colère intacte et l'inquiétude grandissante des salariés d'Arjowiggins. Une semaine, jour pour jour, après la liquidation judiciaire de la papeterie, près de 600 personnes se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain. Un véritable désastre économique pour cette petite commune aux confins de la Sarthe et du Loir-et-Cher. Boris Allier a rencontré des salariés qui continuent de se rendre tous les jours à l'usine.
Ils l'ont appelé le défouloir, un fil tendu le long de l'usine. Les salariés y accrochent des t-shirts jaunes couverts de messages.
C'est la colère, le dégoût.
Sigi Papeterie assassiné en mars 2019. Voilà ce que l'on peut lire sur une croix installée en signe de deuil. Les bâtiments, eux, ne sont pas pour autant déserts.
Là, on surveille, il y a des caméras et on surveille et on fait des rondes sur le site.
Dans le pavillon d'accueil, Gilles et ses collègues ont les yeux rivés sur les écrans de vidéosurveillance.
On a toujours un petit espoir qu'un repreneur soit intéressé, hein, donc il faut absolument qu'on préserve nos outils. Chacun note son nom pour monter la garde, comme on dit.
Une façon de maintenir également les liens entre les anciens d'Arjo, mais certains préparent déjà l'avenir. Claude les voit défiler dans son bureau aux ressources humaines.
Tous les salariés ont besoin de leur diplôme, attestation de formation qu'ils ont fait depuis des années dans l'entreprise, des documents qui pourraient leur être utiles pour la suite. Pour le moment, je m'occupe des salariés, va falloir que je pense à moi. Moi, j'ai qu'une ligne sur mon CV, c'est Arjowiggins, et c'est une entreprise que j'aimerais tout le temps et que j'en parlerai tout le temps. Ça fait mal au cœur, quoi, que ça se finisse comme ça, c'est pas possible, quoi.
Et sur le parking de l'usine, un tas de papiers se consume à petit feu.
Reportage de Boris Allier de France Bleu Maine. Une nouvelle casquette pour Nicolas Sarkozy. L'ex-président entre au conseil d'administration du numéro 1 des casinos français. Le groupe Barrière, 17 hôtels de luxe, 33 casinos et le Phuket. Au Japon, la garde à vue de Carlos Ghosn est prolongée jusqu'au 14 avril. Décision ce matin du tribunal de Tokyo, chargé d'enquêter sur de nouveaux soupçons de malversation.
Secret d'info dans quelques instants. Il est 7h08 à 4 jours des élections législatives anticipées. Agnès, le climat est délétère en Israël.
Multiplication d'attaques personnelles, soupçons de manipulation, fausses nouvelles diffusées via des centaines de comptes internet bidons. La première victime de cette campagne est l'adversaire principal de Benjamin Netanyahou. Le lien avec le Likoud n'est pas formellement établi. Le rapport d'une organisation d'informaticiens met à jour un système organisé et peut-être même rémunéré pour alimenter la machine à rumeurs. Correspondance d'Étienne Monin à Jérusalem pour France Inter.
Ordun Kelman fait partie du collectif en Israël qui lutte contre la désinformation par Internet. C'est une organisation toute nouvelle. Elle date d'octobre dernier. L'initiative est citoyenne, inspirée des dérives dans les récentes campagnes aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Affaire de vie en société, c'est comme prévenir la police quand vous voyez quelqu'un rouler comme un fou sur la route.
Big Bots Project dénonce aujourd'hui un réseau souterrain qui sert les intérêts du Likoud avec une multitude de comptes Twitter au comportement étonnant.
On a vu des comptes qui étaient coordonnés, qui essayent de mettre en avant les mêmes messages, qui s'attaquaient aux messages de l'autre bord, ensemble, de façon très violente. C'est très suspect, on a des gens qui se réveillent au même moment la nuit, qui tweetent la même chose ou le même message, des gens qui diffusent des informations qui n'ont pas encore été diffusées par les médias, et encore une fois, ensemble, sur plusieurs comptes.
C'est contrôlé des attaques et des fausses informations. Elles visent le principal opposant au Premier ministre, Benny Gantz, qui accuse son adversaire, Benjamin Netanyahou, qui dénonce en retour le mensonge et la calomnie. Cette affaire illustre l'absence de limites dans cette campagne. Elle empoisonne encore un peu plus l'atmosphère déjà irrespirable. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence cet après-midi pour examiner la situation en Libye, où les forces du maréchal Haftar se dirigent actuellement vers Tripoli, où siège le gouvernement d'Union nationale. Et puis un 7e vendredi de manifestation en Algérie, des centaines de milliers de personnes attendues dans les rues. Les Algériens veulent empêcher les anciens fidèles du président Bouteflika de gérer la transition.
Retour en France et c'est l'heure de la dictée, Agnès.
Un cauchemar, il faut bien le dire, Nicolas, pour nombre d'écoliers. Et pourtant, il est possible de rendre cet exercice à la fois pédagogique et ludique. Les écoliers de CM1 de cette école de Saint-Denis s'entraînent depuis plusieurs mois pour participer à la plus grande dictée du monde qui aura lieu demain après-midi au Stade de France. Rémi Brancato a suivi leurs préparatifs.
Comme les grands sportifs, ils s'entraînent tous les matins.
Bon, tout le monde a une feuille.
C'est ce que Nawel Barki appelle le rituel de ses élèves de CM1 de l'école Madigou, la dictée quotidienne.
Dans la rue, virgule. Il faut faire attention aux voitures.
Immédiatement après, chacun tente de corriger son voisin.
Il y a un S à voiture, parce que c'est au pluriel.
Ben on va corriger.
Et Nawel ne souligne pas en rouge, la méthode est plus moderne, positive. Les élèves font toujours deux fois la même dictée.
La dictée, ça fait toujours peur. Parce qu'ils se disent, on va se pencher uniquement sur les fautes. Alors que nous, on ne va pas se pencher uniquement sur les fautes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une correction et ensuite, on va venir voir s'ils se sont améliorés.
Qui s'est amélioré? Très bien, c'est très bien, 19 élèves sur 21.
Résultat, Liu reprend confiance.
J'avais peur parce qu'avant, je ne savais pas comment faire les accords, les groupes nominaux et la ponctuation, mais maintenant, je fais moins de fautes.
Et tous les élèves en redemandent, avec en ligne de mire les grandes compétitions, des dictées entre classes dans l'école et surtout le Stade de France pour la classe de CM1 et Sarah, zéro faute.
Ça a l'air bien pour voir si les adultes, est-ce qu'ils sont vraiment forts, parce que c'est pas parce qu'ils sont grands que peut-être ils font encore des fautes.
Tu veux battre des adultes?
Oui.
Car les parents d'élèves vont accompagner les enfants, préparés comme de vrais athlètes.
On s'applaudit les enfants?
1500 personnes attendues demain après-midi au Stade de France sous la houlette de l'écrivain Rachid Sentak. Enfin, l'Égypte antique continue de fasciner petits et grands. Gros succès pour l'expo Toutankhamon à la Villette à Paris. Et puis aux États-Unis, la chaîne Discovery Channel alimente le suspense avant une émission exceptionnelle lundi où un sarcophage vieux de 3000 ans sera ouvert en direct. Une aubaine, Martin Roux, pour le secteur touristique en Égypte.
L'archéologie version show à l'américaine. Le présentateur Josh Gates s'apprête à ouvrir en direct à la télévision un sarcophage vieux de 3000 ans.
Join me, Josh Gates, for an Egyptian adventure. Like nothing you've ever seen.
L'explorateur vedette du petit écran promet d'emmener le téléspectateur dans des galeries souterraines à leur ouverte pour la première fois. Suspense quant aux éventuelles découvertes. La chaîne et les autorités égyptiennes gardent secret le lieu des fouilles. On sait toutefois qu'elle se situe dans la région de Minya, à 250 km au sud du Caire. Cette retransmission en direct à la télévision est, dit-on, inédite. Mais une exploration avait déjà été programmée en direct il y a 20 ans, en 1999, sur la chaîne américaine Fox. Dernièrement, l'Égypte multiplie les annonces de découvertes archéologiques, véritable vitrine pour attirer les touristes. Le pays se relève à peine de la chute drastique du nombre de voyageurs à la suite de la révolution de 2011. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Voilà, et on attend ce show à l'américaine autour de ce sarcophage.
Merci Agnès Soubiran.